Bonsoir, un nouvel épisode vient de s'ouvrir sur le processus électoral de la République démocratique du Congo. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, a annoncé mardi que sans utilisation de la machine à voter, il ne sera pas possible d'organiser les élections le 23 décembre prochain, comme prévu par le calendrier électoral publié il y a quelques mois. Corneille Nangaa réagit ainsi aux États-Unis qui se sont déclarés en début de semaine opposés à l'utilisation de cette machine à voter. Premier thème de tribune de presse ce soir. Le deuxième thème nous conduira au cœur du débat sur l'exploitation du potentiel en hydrocarbures de la RDC. Perenco, la principale société pétrolière active en RDC, s'est dotée d'un nouvel équipement de forage dans ses installations du Congo central. Et le président Joseph Kabila était en personne ce week-end à Mwanda pour inaugurer cet équipement, une acquisition qui va augmenter la production de cette entreprise de 5000 barils par jour, permettant aussi un forage de 11 puits qui eux-mêmes vont produire 2 millions de barils cette année. Le débat ce soir réunit sur la table Alain Botoko. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, reporter, photographe indépendant. Nico Fay Mikaï, journaliste, autre indépendant. Bonsoir.
Bonsoir.
Au téléphone depuis Moneditou en province de Lomami, Ali Boukassa, bonsoir.
Bonsoir Dona Madimba, bonsoir à tous.
Vous êtes journaliste, coordonnateur de l'agence Lumière de communication, LUCOM en sigle, l'équipe de coordination Alain Irung est à la réalisation, Bob Milandou est à la technique, Dona Madimba c'est moi. Tout étant dit, bienvenue à Tribune de la Presse. Avec cet habillage qui fait transition pour cette émission, je vous propose à suivre cette revue de presse.
Bonsoir. La polémique sur l'utilisation de la machine à voter est l'un des sujets qui ont fait l'actualité cette semaine. Politico.cd reprend les propos du président de la CENI, Corneille Nangaa. Sans la machine à voter, il n'y aura pas d'élection le 23 décembre. Pour justifier sa position, le président de la CENI évoque entre autres le problème de coût des élections. La machine à voter permet d'économiser 132 millions de dollars, explicite 7 sur 7.cd. Les exigences des États-Unis ou alors de la communauté internationale, loin de convaincre la CENI, ressemblent à des chants de cygnes dont la sirène retentit moins qu'il ne le fallait pour se faire entendre, faire remarquer la prospérité. Rappelons que Corneille Nangaa répondait ainsi aux inquiétudes exprimées par les États-Unis sur le vote électronique que voudrait appliquer la CENI aux élections congolaises. Forum des As rapporte à cet effet que les États-Unis, à travers Nikki Haley, ambassadeur de ce pays à l'ONU, sont très préoccupés de voir l'insistance des Congolais à vouloir utiliser un système électronique de vote. Contre la volonté de la CENI d'imposer par tous les moyens la machine à voter lors des scrutins de décembre 2018, les États-Unis viennent de marquer leur ferme opposition, renchérit le potentiel. L'avenir de son côté révèle que la Chine et la Russie ont soutenu la position de la RDC. Pour la Russie, indique le tabloïd, l'adoption de la loi électorale, du budget et la fin de l'enrôlement sur toute l'étendue du territoire national prouve la bonne foi du gouvernement et sa détermination à aller vers les élections. Les journaux de Kinshasa ont aussi commenté les retombées de la réunion tripartite Angola, République du Congo et RDC de mercredi dernier. Politico.cd met en exergue le fait selon lequel les trois présidents ont réitéré l'appel à la retenue à l'égard de toutes les parties prenantes au processus électoral en RDC et ont particulièrement condamné toute tentative d'accession au pouvoir par des voies non constitutionnelles. Le Phare constate que les trois présidents, tout en insistant sur le respect de l'accord de la Saint-Sylvestre, qui est lancé en panne à cause de sa non-application intégrale, ont observé un silence troublant au sujet des marches des laïcs catholiques, dont la motivation principale est pourtant liée aux violations du dit accord et aux velléités d'un nouveau glissement de calendrier affiché par la majorité au pouvoir. Dans un autre registre, les tabloïds de Kinshasa reviennent sur la démission d'Evariste Mabimulumba de l'école de de l'UPC. Evariste Mabimulumba indique actualité.cd a démissionné de son poste suite à des irrégularités ayant émaillé le processus conduisant à la défense de la thèse d'Augustin Matata Ponyo, premier ministre honoraire de la RDC.
Merci Alain Irung. Nous entrons dans le vif du sujet dans un instant, mais comme amuse-bouche, mais un amuse-bouche très sérieux, Ali Boukassa de l'agence Lucom à Mouneditou en province de l'Omami. Quelle actualité en dehors de nos sujets principaux aimeriez-vous commenter librement d'abord?
Merci cher Donat, permettez que je dise un peu un mot de souhait pour l'année 2018 à vos millions d'auditeurs, à l'équipe de Radio Okapi ainsi qu'aux confrères avec lesquels nous partageons la tribune ce soir. Dans la province de l'Omami, l'actualité c'est la récente nomination des acteurs, des animateurs des entités territoriales décentralisées, notamment les villes et les territoires. C'est un peu spécial par rapport à la province de l'Omami parce que nous avions une province dont le chef-lieu n'avait pas d'animateur comme ville. Et avec cette ordonnance de nomination, on a cette fois-ci des maires qui vont faire qu'il y ait distinction entre le gouverneur de province et le maire de Cabinda. Parce qu'avant, parfois, on attendait du gouverneur ce qu'on attendrait de la mairie ou du maire. En dehors de cela, aussi l'actualité dans la province de l'Omami, c'est cette crise socio-politique au sommet de la province. Dieu merci, on s'en sort tant bien que mal aujourd'hui. Déjà, la quiétude est de retour et les institutions commencent un peu à fonctionner dans le calme pour le développement de la province de l'Omami. Les investisseurs arrivent, les partenaires des différents secteurs arrivent et donc on peut dire ouf, enfin on s'en est sorti.
Je prolonge votre ouf, c'est une très bonne chose pour la province de l'Omami. Ali Boukassa, nous revenons à vous tout à l'heure. Merci pour votre premier commentaire. Alain Botoko, journaliste, reporter, photographe, indépendant, votre coup de cœur informationnel.
Oui, moi je pense à ces 36 ans que l'UDPS est en train de fêter, jour pour jour, depuis que ce parti existe. Mais mon mot, c'est l'interpellation pour ceux qui gèrent ce parti, qui incarne effectivement l'aspiration de tout un peuple. Ils doivent effectivement comprendre que ce parti, c'est un parti très utile pour les Congolais et ils doivent s'assumer dans leurs responsabilités et prendre les décisions qu'il faut pour pouvoir faire avancer ce parti-là, en dépit de la disparition de leur leader Étienne Tshisekedi qui n'est plus, même si le pouvoir en place ne veut pas qu'il soit enterré, un jour il sera enterré. Et je leur souhaite vraiment plein de bonnes choses dans la suite de leur combat. Et je dis à ceux qui veulent déstabiliser ce parti que ce serait pas une bonne chose. L'histoire pourra les réclamer des comptes dans le jour, les années qui viennent, parce que le peuple congolais est décidé à effectivement à vivre une vie démocratique et une vie où le savoir vivre ensemble est au-dessus des intérêts privés.
Voilà, vu que le pouvoir n'est pas représenté sur la table aujourd'hui, j'aimerais juste rappeler leur position. Le pouvoir estime aussi que c'est plutôt la famille aussi politique que biologique d'Étienne Tshisekedi qui ne met pas tout en place pour malheureusement les obsèques de ce grand monsieur de la République démocratique du Congo. Sur ce, journaliste indépendant Nico Fay Mbikai, c'est un plaisir de vous retrouver. Hein.
Merci.
Y a-t-il un sujet introductif que vous souhaiteriez commenter?
J'estime que Alain venait de dire la grande information de la journée, mais comme je ne sais pas verser dans les redites, j'aimerais interpeller les autorités politico-administratives de la ville de Kinshasa, que l'insécurité bat son plein hier et lors du match qui a opposé le Real de Madrid face au PSG.
On a enregistré, Paris Saint-Germain, équipe française.
Oui, on a enregistré des morts suite aux rivalités des supporters des deux équipes. Alors, il faudrait que lors des prochaines rencontres, que l'autorité politico-administrative et les services de sécurité puissent prendre des mesures qui s'imposent pour que pareille situation ne se reproduise.
Alors, nos idées étant suffisamment entraînées maintenant, nous pouvons plonger dans le premier thème des échanges de ce soir. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, a annoncé mardi que sans utilisation de la machine à voter, il ne sera pas possible d'organiser les élections le 23 décembre prochain, comme prévu par le calendrier électoral publié il y a quelques mois. Corneille Nangaa réagissait ainsi aux États-Unis, qui se sont déclarés en début de semaine, eux, opposés à l'utilisation de cette machine à voter. Les États-Unis ne sont pas seuls dans cette position. D'autres pays aussi découragent le vote électronique, comme nous le raconte ici cette synthèse de Billy Ivan Lutumba.
Nous sommes très préoccupés de voir l'insistance de la Commission électorale nationale indépendante CENI à vouloir utiliser un système électronique de vote, a affirmé la diplomate citée par l'AFP. Selon Nikki Haley, un tel recours représente un risque colossal et les États-Unis souhaitent le recours à des bulletins papier pour qu'il n'y ait pas de doute sur les résultats. Participant à cette rencontre, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, a pour sa part précisé que l'option prise de recourir à la machine à voter permet de réduire le poids de l'ensemble des matériels à déployer des 16 000 tonnes à moins de 8 000 tonnes. Lors du débat, la Côte d'Ivoire a mis en garde contre le risque d'élections mal préparées, tandis que les Pays-Bas indiquaient respecter la décision de la CENI de recourir à un système électronique tout en lui demandant de tester rigoureusement le matériel avant les scrutins. On ne peut pas permettre un nouveau report des élections et le président Kabila ne peut pas briguer un nouveau mandat car la Constitution ne le permet pas, a souligné Nikki Haley. Elle a aussi évoqué des informations selon lesquelles le président sortant ne chercherait pas à imposer quelqu'un de son choix pour lui succéder. Peut-on lire dans cette dépêche de l'agence France Presse.
Alors de son côté, réagissant à ces propos, Corneille Nangaa, président de la Commission électorale nationale indépendante, indique que le vote se fera avec des bulletins en papier et la machine à voter doit seulement servir à imprimer ces bulletins. On l'écoute au micro de nos confrères de Radio France Internationale.
Je comprends les préoccupations de Nikki Haley. Je suis d'accord avec elle que nous ne pouvons pas organiser un vote électronique au Congo. Ce que nous proposons au Congo, ce n'est pas un vote électronique, c'est un vote à papier, comme elle nous a conseillé d'ailleurs de le faire. Oui, nous allons voter avec papier, mais nous allons voter avec la machine à voter. La machine va servir juste à imprimer les bulletins de vote au niveau des bureaux de vote. Au-delà des économies que nous réalisons grâce à la machine, il faut reconnaître que nous avons basé notre calendrier électoral, c'est-à-dire la tenue des scrutins le 23 décembre sur base de la machine. Pas de machine, pas d'élection en décembre. Parce que nous aurons la liste des derniers candidats en octobre. Si nous commandons ces bulletins à partir d'octobre, il faut les commander en Afrique du Sud, il faut les commander que ça vienne, nous sommes au-delà d'avril 2019.
Alors, Alain Botoko, journaliste, reporter, photographe, indépendant, d'ici décembre, il ne reste en principe que 10 mois. Ce nouveau feuilleton vous inquiète-t-il ou pas du tout?
Le comportement du président de la CENI inquiète des millions de Congolais. Pourquoi il s'encharne à l'utilisation de cette machine et que beaucoup de partenaires, de partis prenantes sont en train de dénoncer et de dire que ce n'est pas utile.
Mais il précise bien que ce n'est pas le vote électronique, hein,
oui,
pour
mais,
lui.
Mais il peut crier comme il veut, mais ce vote, s'il n'est pas électronique, il sera semi-électronique. En fait, il ne faut pas prendre les Congolais comme de voyous, des gens qui n'ont pas étudié, qui ne connaissent rien. Cette machine n'est pas une imprimante où on imprime le papier. Non, c'est une machine intelligente. Et la question qu'il faut se poser, c'est que est-ce que il comprend ce qu'il dit, lui, le président de la CENI. Les élections, ce n'est pas une particularité d'une partie prenante comme la CENI. Non, c'est pour tout le monde, c'est pour toute la population. Et l'opposition a un mot à dire sur les élections, le pouvoir a un mot à dire sur les élections, la CENI a un mot à dire sur les élections, le reste de la population aussi. En fait, mais pourquoi, de quelle autorité Nangaa se donne pour pouvoir décréter des fatwas ou de mots s'il n'y a pas ça, il y a ceci. Pourtant, dans la loi électorale, il y a le timing pour le transport de papier, la mise en place de bulletins de vote.
Mais étant l'organe technique censé avoir la meilleure maîtrise de ces opérations, est-ce qu'il n'est pas aussi un peu dans son droit de conseiller et d'insister sur un instrument qui pourrait pour lui être le mieux adapté dans ce cas-ci?
Mais c'est ce qui tue nos pays en voie de développement ou nos pays qui se cherchent en démocratie. C'est le texte qui nous régit, nous tous. Il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus de la loi, qui est au-dessus de la Constitution, qui est au-dessus de l'accord, qui est au-dessus des textes qui nous régit. Les textes ne disent pas ça. Lui, il se donne ce pouvoir d'où? C'est ça la grande question. Et je me dis, il dit non, on va économiser de l'argent. Il parle même de ça, 32 millions qu'il faut économiser. Est-ce qu'il comprend ce qu'il dit? Ces machines doivent être transportées. Ces machines, il y a des commissions. Nous connaissons notre pays, des commissions qui doivent être payées. Et il y a tout ça. Mais les défis sont énormes à l'utilisation des machines que de papier. Moi, je pense qu'il doit revenir à la raison et il n'est pas encore tard. Je pense que le conseil de Nikki, il devait le prendre au sérieux. Et je pense que le million de Congolais pensent comme Nikki qu'il ne faut pas utiliser la machine. Il faut faire le vote comme on l'a fait en 2006, en 2011. Et après, quand le pays sera démocratisé, quand le pays sera modernisé, parce que regardez, jusqu'à aujourd'hui, nous utilisons 3% de l'électricité. Pour toute la population. Et vous amenez des machines qui doivent être chargées. Il se peut qu'il y ait des batteries qui sont incorporées dans la machine. Mais cela, ça doit être chargé. Et avec toutes les conditions que nous connaissons, le transport et tout, moi je pense qu'il faut continuer avec ce qu'on a essayé dès le départ et réussi. Au lieu de recommencer les choses que nous ne maîtrisons pas encore, alors je crains qu'il y ait un chaos total après les élections de décembre qui sont déjà acquis, parce qu'en fait je ne pense pas que Nanga aura le pouvoir de pouvoir déplacer cette date-là de décembre.
Alors vous semblez avoir des arguments, mais qu'est-ce qui selon vous vous fait croire qu'est-ce qui selon vous peut expliquer que le président de la CENI insiste tant à utiliser cette machine? Est-ce qu'il y a il veut participer à une tricherie pour un camp contre un autre ou il y a une autre explication selon vous?
Mais lui-même met en doute son indépendance. Mais le jeune Afrique, il y a quelques semaines passées, a tweeté, a lancé dans son site le propos que lui-même a prononcé dans une réunion du PPRD. Je me pose même la question, pourquoi lui qui est président d'une commission doit assister à une réunion d'un parti politique privé alors qu'il est indépendant? Il ne cesse de crier tout le jour, toute la nuit. Et alors, dans ses propos, incitait le parti du pouvoir à effectivement appuyer cette voie-là de la machine. Donc il y a quelque chose de caché derrière cette machine-là et je lui conseille de pouvoir revenir à la raison avant qu'il ne soit tard.
Nico Faimbikai, journaliste indépendant, pour vous, en 2018, vote avec machine à voter ou pas?
Merci beaucoup, Donna, pour l'opportunité. Moi, j'estime que les élections tant entendues par la population congolaise du 23 décembre, que le vote pour moi soit avec machine à voter ou avec vote à bulletin traditionnel. Pour moi, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Pour tout candidat, pour tout parti politique sérieux qui a préparé les élections, j'estime qu'il n'y a rien à craindre. Souvenez-vous, Donna, en 2006, ce n'était pas la machine à voter. Qu'est-ce qu'on n'a pas décrié ici? 2011, il n'y avait pas de machine à voter. Qu'est-ce qu'on n'a pas décrié ici? Voulez-vous qu'on continue toujours de la même manière? Avec les méthodes dont on a décrié hier? On maintient les mêmes méthodes, on décrit. On change les méthodes, on décrit. Moi, j'estime que les gens qui cherchent aujourd'hui à ce qu'on change les machines à voter.
Ce serait qui? Les États-Unis ou
que l'opposition? Que ce soit les États-Unis, que ce soit même beaucoup de nos compatriotes ici qui décrivent cela, ne sont pas prêts pour les élections. Ne sont pas pour l'alternance le 23 décembre.
Est-ce que ce n'est pas aussi un peu compréhensible qu'ils détectent ou évitent une éventuelle tricherie?
Écoutez, s'il te plaît, moi je fais seulement des comparaisons. 2006, y avait-il des machines à voter ou pas? Il n'y en avait pas. Y avait-il une tricherie ou pas? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu dans ce pays? Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? 2011, y a-t-il des machines ou pas? Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Qu'est-ce qu'on n'a pas décrié? On change, on décrit. On ne change pas, on dit. Écoutez, parfois je n'ai jamais été d'accord avec George Bush Walker. Mais dans certaines choses, je suis d'accord avec lui. Il a dit que non. Comment voulez-vous dans ce monde? Vous n'agissez pas, on critique. Vous agissez, on critique. Alors allez-y comprendre. Moi j'estime que c'est un faux fouillant, c'est un faux problème.
Que ce soit la machine à voter, que ce soit le vote traditionnel des bulletins, j'estime que pour tout candidat sérieux qui a préparé les élections juste après les élections de 2011, ceci ne poserait pas problème. Mais aujourd'hui, à moins de à 311 jours de la tenue des élections, tant attendu par la population congolaise, soulevant encore la problématique des machines à voter, j'estime que ce que j'ai toujours prédit, cela est en train de se matérialiser. J'ai toujours dit que non, beaucoup n'aiment pas les élections. En fait, tu vois les gens au prétexte des élections, mais au finish, on se rend compte que les gens ne veulent pas les élections. Si vous soulevez un tel problème aujourd'hui, et que la majorité dans sa malice tirait encore les choses en longueur, et au finish, il finit par accepter de mettre un terme avec les machines à voter. Ne pensez-vous pas que non, ils auront encore à chercher un autre glissement? Nous voulons qu'on évite. Nous voulons l'alternance. Mais on n'aura pas l'alternance dans le conditionnalité et dans le préalable inutile, stérile et improductif.
Alors,
qu'est-ce que nous voulons ici? Que chaque candidat, que tout parti politique sérieux qui veut gagner les élections, c'est tel, d'ailleurs, s'il y a un parti qui se réveille aujourd'hui, je dirais que c'est un peu tard. C'est déjà tard pour cela qu'il commence à se réveiller. Que ce soit les votes avec machine ou sans machine, vous n'aurez que des yeux pour pleurer. C'est là qui conteste aujourd'hui. Ne sont-ils pas ceux-là qui ont décrié hier? Écoutez, est-ce que avez-vous préparé les élections? Il ne faut pas seulement venir dans les plateaux de télévision, de radio, à condamner, à chercher des préalables. Mais est-ce que nous préparons les élections pour les gagner?
Mais Alain Botoko, il n'est pas le seul, a souligné une difficulté technique qui pourrait subvenir. Le pays a des problèmes d'électricité. On apporte une machine qui fonctionne avec l'électricité et probablement de batteries. Est-ce que ça va pas susciter soit une dépense de plus, soit alors des problèmes de fonctionnement qui pourraient handicaper les opérations?
Je suis d'accord avec vous. Mais comme devant un fait accompli, faut-il continuer toujours à chercher à tirer les choses à longueur ou bien nous devons faire avec? Moi, j'estime que c'est le moment de faire le carambolade. C'est-à-dire, travaillons d'abord en fonction de ce qui est prévu. Chercher à dire que non, qu'on annule en ce moment, c'est une perte de temps. Il reste 311 jours pour les candidats sérieux, pour les partis politiques sérieux qui ont eu à préparer les élections. J'estime que ce soit la machine à voter ou sa machine à voter, pour les candidats sérieux, on aura à gagner les élections. Mais les problèmes ne se posent pas au niveau des machines. Les problèmes se posent au niveau des préparations. Combien de partis ont-ils préparé les élections? Les élections, on ne les prépare pas seulement dans les plateaux de télévision ou bien des médias, de radio. Les élections se préparent sur terrain. Vous devez chercher les moyens. Parce que pour le candidat président de la République, sa circonscription électorale, c'est tout le Congo. Combien de candidats en 2006 donnant en 2011, sur 500 sièges, combien de partis politiques qui font tuer les gens aujourd'hui ont aligné les candidats? Aucun parti politique n'a su aligner 390 sièges.
Alors, nous revenons à vous.
C'est très important. Mm-hmm. Ça ne sert à rien de continuer à parler sur la machine à voter. Moi, j'estime, même si on a préparé la tricherie, mais si pour un candidat qui a aligné les témoins, mais juste lorsque on met le bulletin dans l'urne, parce que la machine à voter ne va pas empêcher à ce que le candidat, l'électeur aille mettre le bulletin dans l'urne. À la fin de la journée, on va toujours procéder à la comptabilité des bulletins.
Alors, on revient à vous, Nikofa Mbikai, tout à l'heure. Merci pour votre commentaire. Au téléphone, depuis Mwene Ditu, participe aussi à notre confrère, Ali Boukassa. Vous êtes journaliste coordonnateur de l'agence Lumière dans la communication, LUCOM en sigle. Votre commentaire après avoir entendu les autres débatteurs de ce soir.
Cher confrère Dona, toute créativité, toute innovation dans la vie, surtout celle d'un État, vient résoudre, répondre à des questions. La machine à voter aujourd'hui vient répondre à quelles questions? À quels besoins? Si, comme le président Nanga le dit, c'est pour diminuer de 50% des coûts financiers, est-ce qu'il se rend compte que cette utilisation de la machine à voter augmente le coût des contestations? Ça, c'est de 1. J'ai suivi le confrère Mbikaï. Il vous dit qu'il faudra que les partis politiques s'apprêtent et qu'ils aient des témoins. Selon les informations en notre possession, c'est qu'avec un tel mode d'élection, avec la machine à voter, l'utilité des témoins serait diminuée. Ce n'est pas pour rien qu'il y a le taux, qu'est-ce que je veux dire, il y a le seuil de représentativité, quelque chose comme ça. C'est que ce ne sont pas seulement les déclarations ou le PV d'un bureau X qui serait l'affaire. Il faudra qu'on équilibre cela, qu'on fasse la sommation avec les PV des autres bureaux de témoins qui sont ailleurs. Donc, les calculs sont un peu élargis et un peu compliqués. Troisièmement, les gens ne veulent pas. Vous sentez que la machine à voter n'est pas la bienvenue. Pour les uns, c'est une machine à voter. Pour les autres, c'est une machine à voler. Où est l'intérêt entre les deux qui soit majeur? L'intérêt majeur pour moi, c'est par exemple voir qu'est-ce qui pourrait encourager la paix, l'apaisement des uns et des autres. Et puis, à suivre la démarche de la CENI, aujourd'hui, la machine à voter n'est parlée, n'est chantée qu'à Kinshasa. Kinshasa ne fait pas la RDC. Pourquoi à l'intérieur, nous n'aurions pas même cette sensibilisation? J'ai suivi d'abord dans cette tribune. Pourquoi ne pas même sensibiliser? Commencez par sensibiliser les journalistes qui sont des relais très importants en cette matière. Une autre chose, dans le reportage, dans l'extrait sonore que vous avez fait passer des confrères de RFI, à un moment donné, si j'ai bien suivi l'élément, le président Nanga de la CENI aurait dit « Elle nous a conseillé ». Elle, je suppose, c'est Niki Aleï. Mm-hmm. Est-ce que ça remet un peu sur la table la duplicité langagière? Est-ce que le discours des États-Unis d'Amérique est sincère? Est-ce que la démarche de la CENI est indépendante? Est-ce que nous ne serions pas en train de vivre dans une messe de dupes où on ne sait ni même pas qui dit vrai, qui dit juste et qui est celui que l'on peut croire?
Alors,
C'est tout ça ainsi un cafouillage qu'il faudra éclaircir parce qu'on ne peut pas aller aux élections dans un contexte comme celui-ci.
Ali Boukassa, vous gardez la parole, mais Nico Mbikaï l'a relevé tout à l'heure, mais est-ce que ce n'est pas un peu tardif de refuser en ce moment-ci la machine de la CENI, vu qu'il ne reste pas beaucoup de temps? Est-ce que ce n'est pas un peu tardif?
Je partage un peu l'inquiétude du confrère Nico Mbikaï. Cependant, selon encore mes sources, l'utilisation même de la machine à voter ne serait pas inscrite ou stipulée dans la loi, dans l'actuelle loi électorale. Est-ce que on va réviser la loi électorale au cas où ce serait vrai? Donc, c'est toute cette panoplie de difficultés qu'il faut résoudre pour aller vraiment aux élections apaisées. Alors, vous savez, j'ai toujours aimé une enseigne de sensibilisation du révérend Tabé Apollinaire Maluma Lumuho Longo. Paix à son âme. À son temps de la CEI, il disait « Avec vous, nous organisons les élections ». Mais avec la philosophie, avec la déduction que je fais de la démarche actuelle de la CENI, c'est comme si la CENI n'aurait pas besoin des autres pour organiser les élections. C'est comme si la CENI n'écouterait pas les aspirations, les attentes des autres pour organiser les élections. On devra se dire ici qu'on n'organise pas les élections pour soi-même. La CENI n'est que l'organe technique d'organisation et non un acteur des élections. C'est là qu'il faut aussi qu'il y ait distinction des choses. Il ne faut pas qu'elle prenne les élans d'imposer ce qu'elle veut. C'est là que aussi même son indépendance serait entamée, attaquée. Donc, elle est une institution d'appui à la démocratie. Il faut vraiment, la démocratie c'est aussi la paix, c'est l'apaisement.
le feuilleton du déroulement du processus électoral en République démocratique du Congo poursuit son chemin et nous avons encore le temps d'ici la fin de cette émission de redonner la parole à chacun d'entre vous pour peut-être en guise de conclusion donner son dernier mot sur ce feuilleton à ce stade-ci. En attendant, nous entrons dans notre deuxième sujet et celui-là nous conduit droit au cœur du débat sur l'exploitation au potentiel en hydrocarbures de la République démocratique du Congo. Perenco, la principale société pétrolière active en République démocratique du Congo, s'est dotée d'un nouvel équipement de forage dans ses installations du Congo central et le président Joseph Kabila était présent en personne le week-end dernier à Mwanda pour inaugurer cet équipement, une acquisition qui va augmenter la production de cette entreprise de 5000 barils par jour, permettant aussi un forage de 11 puits qui eux-mêmes vont produire 2 millions de barils cette année. Un récit signé Guy Roger Nyampala.
Il s'agit d'un appareil de forage dénommé Nuada, un appareil capable de venir dans des eaux peu profondes selon la société Perenco. 100 mètres de hauteur, 40 de largeur et 800 de longueur. Sa capacité de forage est de 10 km de profondeur dans le sous-sol. Cette plateforme peut loger 100 personnes à l'investissement de 70 millions de dollars américains. 11 puits qui seront concernés par ce forage vont produire 2 millions de barils cette année. Joseph Kabila était accompagné des diverses personnalités, notamment le vice-premier ministre José Makila, certains ministres ainsi que le gouverneur de la province du Congo central, Jacques Mbadou Sitou. C'est lui qui était le premier à prendre la parole. S'en est suivi la présentation par les ministres en charge des hydrocarbures, des rendez-vous en ce qui concerne des projets pétroliers en vue de leur matérialisation en 2018. C'est le directeur général de la Perenco qui a clôturé les discours suivis de la visite du site. Notez que ce nouvel appareil va remplacer des équipements vieux de plus de 10 ans. De retour de la cité de Mwanda, Guy Roger Nyampala, Radio Okapi.
Nico Fay Mbikaï, que vous inspire cette information?
Oui. Donnant dans le timing mais parti par vous, je vais essayer un peu d'éclaircir encore ce que nous avons parlé de sur le premier sujet. S'il te plaît, les amis, mais les Congolais, parfois, vous me rendez fou. Je n'arrive pas à comprendre ce que les Congolais veulent. On s'est battu dans ce pays, mort de course pour qu'on publie le calendrier. Mais je me rends compte aujourd'hui que les gens ne semblent plus encore chauds pour les élections. On commence à chercher les faux fuyants. On commence à chercher à prétester. Et on commence à chercher les alibis. S'il vous plaît. Nous voulons l'alternance. Les gens sont morts pour l'alternance. Je ne vois pas de mécanisme pour en arriver. Le seul mécanisme facile, c'est l'élection.
Je ne vous interromps pas, excusez-moi. Est-ce qu'on peut aller à la réaction de notre deuxième sujet? Et il y a encore la possibilité, en guise de conclusion, de pouvoir donner votre dernier mot sur le premier. Alors, le président de la République, présent à l'inauguration d'un nouvel équipement de Perenco, cet équipement est censé augmenter la quantité de production de cette entreprise. Cette information vous inspire-t-il un commentaire?
Oui, lorsqu'il y a quand même les investissements dans ce sens-là, nous ne pouvons qu'encourager, dans la mesure où, quand bien même lorsqu'on parle de 5000 barils le jour, par rapport à d'autres pays, c'est incomparable, c'est insignifiant. Lorsque, par exemple, Luanda, Abuja, ils vont jusqu'à plus d'1,5 million de barils. Mais nous, jusque-là, nous ne sommes qu'à 5 000. Et bon, dans la vie, vaut mieux commencer que de ne pas, de ne rien faire, de ne rien commencer. 5 000, j'estime que c'est un pas. On va embaucher les Congolais c'est un début. L'État aussi aura attiré aussi des dividendes lorsque Perenco va commencer à exploiter. J'encourage le gouvernement parce que il ne faudrait pas toujours penser que les ressources que nous avons, faut continuer à les garder dans le sous-sol. Les ressources n'ont de valeur que lorsqu'ils sont exploités et vendus. Mais les ressources n'ont pas de valeur lorsqu'ils continuent à être dans le sous-sol. Et voilà que Perenco a revu sa capacité d'exploitation à la hausse. C'est à encourager, non seulement encourager Perenco, encourager aussi le gouvernement qui dirige Maître Bruno Tshibala, dans la mesure où, quand bien même les 5 000 sont insignifiants, mais néanmoins, les Congolais vont trouver du travail et l'État aussi va générer des dividendes supplémentaires par rapport à ce que nous avons. Mais nous allons demander à Perenco d'aller plus loin si nos jugements nous le permettent, qu'on atteigne au moins, je serais moi d'accord, si on atteignait le seuil, par exemple de 500 000, voire même 1 million de barils le jour. Mmh. En ce moment-là, ça paye au grand flouet les caisses de l'État. 5 000, vaut mieux payer que rien, mais il faut quand même qu'il y ait un début.
Mais alors, signalons que pour le moment, les 5 000 ne sont pas encore produits. Hein. Ce n'est qu'une estimation, en attendant que cette machine-là réussisse vraiment à cette augmentation. Mais ici, c'est aussi l'occasion, cette actualité a été aussi l'occasion, justement, comme vous le disiez tout à l'heure, de voir un peu où est-ce que nous en sommes, où est-ce que la RDC en est avec la production. Signalons aussi que Perenco, ce n'est pas une société publique, c'est une société occidentale des commerçants. Je vous pose la question d'analyser aussi un peu cette information à la lumière de ce que les auditeurs et d'autres observateurs ont fait. Beaucoup de gens se sont posé la question, qu'est parti faire le président de la République dans cette inauguration, comme vous le disiez, privée d'une entreprise qui n'est pas publique, pour une augmentation de 5000 barils, alors que les vrais pays producteurs de pétrole en Afrique sont dans minimum 2 millions, c'est le cas du Nigeria, dépassé 2 millions, l'Angola aussi. Est-ce que quand on entend parler de 5 000 barils de plus, comparé à 2 millions pour cet énorme de la production du pétrole, et sachant que la RDC n'a pas une société publique, et qui a un fort potentiel en hydrocarbures présenté chaque année par les spécialistes, est-ce que on n'a pas vraiment été là devant une situation où les autorités auraient pu mieux faire?
Oui, nous devons ici faire le distinguo. Nous ne disons pas que moi j'ai soulevé cela. Les 5000 sont insignifiants par rapport à d'autres pays. Et le 5000 pour moi, pour un pays comme le Congo, je ne vois même pas ce que cela fait. Mais faudra-t-il rester bras croisés, ou bien il faut commencer par quelque part pour que dans les jours à venir, dans les années à venir, que Perenco puisse augmenter sa capacité d'exploration. Mais un autre aspect aussi, l'État, généralement dans beaucoup de pays, l'État ne fait pas de commerce. L'État ne fait pas de commerce.
Il y a quand même des entreprises publiques.
J'en viens. L'État ne fait pas de commerce. Ça peut être une entreprise publique, ça peut être une entreprise privée. Mais pour l'État, c'est quoi? C'est les impôts et taxes que ces dernières payent qui renflouent les caisses de l'État. Est-ce que les faites par Perenco? Moi, il faut encourager la démarche parce que beaucoup ont condamné les premiers ministres. Il faut encourager dans la mesure où, quand bien même ce n'est pas une entreprise de l'État, c'est une entreprise privée. Mais néanmoins, la dernière aura à payer les impôts, aura à payer les taxes, aura aussi à employer les gens. Faut-il rester bras croisés ou il faut commencer par quelque part?
Merci beaucoup pour ces interrogations, tout en rappelant que Perenco ne vient pas de s'installer, existe déjà depuis longtemps, embauche déjà les gens.
La production.
Et que les impôts sont censés, en principe, être déjà payés régulièrement.
Les impôts sont proportionnels à la production.
Alain Botoko, est-ce que les autorités congolaises ont manqué à faire en allant et en donnant de l'importance à cette information?
C'est un problème de priorité ici. Moi, quand je vis le président Kabila et toute son équipe qui l'accompagnait dans cette machine-là qui va produire du pétrole, je ne sais quand, la question, je me posais énormément de questions et je vais partager quelques-unes avec les auditeurs. La première, c'est celle de savoir est-ce qu'ils connaissent réellement notre pays, et s'ils les connaissent, est-ce qu'ils connaissent aussi nos voisins qui partagent avec nous la même côte? Vous avez tout à l'heure là parlé de l'Angola. Elle produit avec toutes les sociétés qui sont dans autour de 2 millions de barils le jour. Le Congo-Brazzaville, c'est autour de 250 000 barils le jour. Le Nigeria, qui est presque dans la même côte, c'est autour de 2 millions, au plus de 2 millions de barils le jour. Et nous, jusqu'à aujourd'hui, nous produisons 25 000 barils le jour.
Et c'est la société Perenco, pas l'État congolais.
Et ça c'est dramatique. Et une autre question, c'est celle de savoir, est-ce que nous avons une société pour les hydrocarbures? Parce qu'en Angola, c'est le monopole, même au Nigeria, même en Angola, le monopole, ce sont les sociétés étatiques qui monopolisent tout et qui donnent le go aux autres sociétés. Et si vous n'avez pas une société étatique qui maîtrise la donne, qui maîtrise le secteur, alors les autres sociétés ne viendront que vous rouler et ils ne diront jamais, jamais la clarté. Vous ne verrez pas de lignes claires dans la gestion du pétrole par Perenco dans les sites web ou dans toutes les autres informations. Dans le journal officiel. Ça n'est juste pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils le gèrent d'une façon opaque. Et l'autre préoccupation, c'est celle de savoir quelle est notre priorité actuellement. Est-ce que c'est celui d'explorer le pétrole ou de l'exploiter ou carrément diversifier d'autres secteurs au lieu de se baser sur le minier et le pétrole qui amènent énormément de pollution alors que nous avons plus de 8 millions d'hectares de terres arables, plus de 2 millions d'hectares de terres irrigables où on peut cultiver à chaque saison. Est-ce que nous comprenons les priorités dans ce pays ici? Mais je reviens un peu à la décision que l'ami tout à l'heure là a félicité le Premier ministre. Est-ce qu'il comprend ses prérogatives pour cette période transitoire? Dans cette période ici, il n'est pas autorisé à engager le pays dans des contrats avec les privés et surtout des contrats qui incarnent de millions de personnes.
Alors, merci beaucoup, Ali Bukasa. Content ou pas content de cette information d'acquisition de cet équipement?
Dona Madimba, nous Congolais, on doit apprendre à nous aimer vivants, à nous féliciter vivants. J'aime bien les confrères quand ils versent dans la comparaison. Il faudra qu'ils comparent aussi, qu'ils disent aussi que est-ce que nous avons les mêmes réalités de stabilité avec ces autres pays dans la comparaison. Aujourd'hui, c'est 25 000 barils. Hier, c'était 20 000. Demain, il y aura encore davantage. C'est tout ce que nous pouvons souhaiter et encourager. Deuxième chose, ceux-là qui produisent aujourd'hui des millions de barils le jour, mais ils avaient commencé par où? Non. Nous sommes un État qui est sur un chemin de reconstruction. Les quelques bonnes œuvres, actions, il faut les accompagner. Pourquoi le président Kabila ne devrait pas être présent sur place? C'est pour donner peut-être un tonus. C'est un peu justifié. Cependant, Perenco, c'est franco-britannique depuis 2001 en RDC. Ali Bukasa, j'ai un faible du côté vert, je suis un peu écolo. J'ai pu aussi noter que depuis que Perenco est là, plus d'une fois, on lui a reproché la pollution de l'eau, de l'air, ainsi de suite. C'est sur ce plan-là que moi aussi, j'évoque mon inquiétude. Est-ce que des dispositions sont prises pour préserver, conserver la nature, l'environnement? N'oublions pas que nous sommes quand même une puissance écologique. Nous sommes une puissance pour l'équilibre climatique du monde. Est-ce que sur cet aspect des choses, parce que quand je vois, on dit un nouvel équipement, est-ce que c'est aussi un nouvel équipement, pardon, qui vient augmenter la production? Oui. Est-ce que cette production-là ne va pas se faire suivre d'une augmentation en pollution? Tout ça, ce sont des questions aussi qu'on devrait éclairer pour l'opinion. Un autre élément d'inquiétude, c'est qu'aujourd'hui, on dit 25 000, 20 000 barils le jour. Est-ce que c'est une déclaration vraie? Qui peut nous dire vraiment la production telle qu'elle est? Parce que parfois, on déclare des choses en l'air comme ça, et après, il n'y a rien. Un autre élément, Dona Madimba, c'est que vous sentez que parfois, beaucoup d'actions se font à l'ouest et à l'est. Ça déséquilibre un peu. Ça fait penser même à la justice distributive. Est-ce que toutes les provinces qui voient ce qui se fait ailleurs, sauf chez elles, est-ce qu'elles sont contentes? Est-ce qu'elles se reconnaissent congolaises? J'évoque le cas de ma Lomami, de ma province de Lomami. Aucune entreprise propre locale. Tout le monde qui attendait du découpage insalubre, aujourd'hui grince les dents. Et ce serait même une des raisons de tout ce que nous vivons comme cafouillage, comme confusion politique.
Allez, c'est Bukassa.
Là que je dis aussi qu'il faudra que l'on voie un peu, que l'on revoie notre politique d'investissement, de reconstruction de notre RDC.
Merci pour votre conseil. Ça sera votre dernier mot pour cette émission. Merci Ali Bukassa d'avoir participé à cette émission. Nico Fay et Alain Botoko. L'actualité va continuer. Nous aurons de nombreuses occasions de nous retrouver pour continuer de commenter. Alain Irung à la réalisation. Bob Landou à la technique. Tribune de la presse pour ce soir. C'est fini. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.